Question et réponse numéro 31. L'épreuve de votre cœur. Prêché le 11 novembre 2007. Pasteur Brian Kozurek. La semaine dernière, nous avons lu dans 1 Pierre 1, concernant l'épreuve de notre foi, et la semaine précédente dans Jacques 1, concernant l'attitude que nous devons avoir lorsque nous subissons l'épreuve de notre foi. Ce matin, je voudrais examiner le but de ces épreuves que nous traversons, parce que Dieu est terre souverain, et il est terre éternel, et il s'est terre contenté de son existence solitaire toute une éternité dans le passé. Nous n'y pouvons donc ni ajouter à lui ni enlever de lui. Alors tout ce qu'il fait, c'est terre à cause de ce qu'il est terre. Il est terre le Dieu de l'amour, et donc tout ce qu'il a fait pour nous, c'est terre pour nous, et non pour lui-même. C'est terre pourquoi, si Dieu nous met à l'épreuve, et met notre foi à l'épreuve, ce n'est terre pas pour lui qu'il le fait, mais pour nous. L'épreuve n'est terre donc pas pour le bien de Dieu, comme s'il avait besoin de nous mettre à l'épreuve pour savoir si vous réussirez ou non le test. Mais l'épreuve c'est terre pour votre bien, pour que vous connaissiez ce qui se trouve dans votre cœur, pour que vous puissiez commencer à faire face à l'incrédulité et à la méchanceté qui se trouve dans votre propre cœur, pour que vous puissiez y faire face et vous débarrasser de vos propres motivations égoïstes et de votre servitude. Donc, avec cela en nous dans notre pensée, regardons à nouveau ces Écritures ce matin. 1 Pierre 1, 3, roi Jacques, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde abondante, nous a engendré à nouveau une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, maintenant, jusqu'à présent. Nous voyons que c'est une chose complètement passive qui se passe ici. Vous n'avez rien à dire sur ce que Dieu a déjà fait en votre nom. Pierre nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Que dit Pierre pour dire que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est terre si béni? Il nous dit que c'est terre à cause de ce qu'il a fait pour vous et moi. Écoutez. Qui? Selon sa miséricorde abondante, pas seulement sa miséricorde mais sa miséricorde abondante, son abondante miséricorde nous a engendré à nouveau dans une espérance vivante. Cela signifie que Dieu sans notre demande, et sans même notre connaissance ou consentement, nous a engendré, ce qui signifie qu'il a fait naître en nous une espérance vivante, une espérance qui a été rendue vivante. Comment? Par quelque chose dont vous n'avez rien à voir, par la résurrection de Jésus-Christ, parmi ceux qui sont morts. Remarquez, Dieu nous a fait revivre par la même résurrection qu'il a fait ressusciter son Fils unique. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vient en nous par la nouvelle naissance, et nous fait revivre avec une espérance vivante. Une espérance qui, comprend, comme vous le voyez au verset suivant, 4 un héritage qui est incorruptible et non souillé, et qui n'est mis pourrait jamais disparaître, une espérance qui a été réservée ou gardée dans le ciel pour vous. Remarquez ensuite au verset suivant qu'il ajoute, 5 vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu à travers cette foi, cette révélation qui doit être révélée dans la dernière foi qui produira le salut ultime qui est la rédemption de votre âme, qui est la rédemption ou le rachat de votre âme. Nous voyons donc que les épreuves doivent ramener notre âme à l'endroit que Dieu a ordonné qu'elle soit, avant les fondations du monde, quand nous étions encore en lui. Maintenant, remarquez qu'il fixe la conversation de ce que Dieu a déjà fait pour vous, à ce que vous devriez faire à la suite de ce que Dieu a déjà fait, et cessez de se réjouir de ce que Dieu a déjà mis en mouvement pour vous. Une restauration de l'arbre de l'épouse. Une restauration complète de qui vous êtes réellement. Celui qu'il connaissait avant les fondations du monde. Pas le vous mondain que vous êtes maintenant, mais le vrai vous qu'il a ordonné d'être là. Et cessez pourquoi nous pouvons nous réjouir. Si sans quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant pour une saison, si besoin Esther, vous êtes dans la lourdeur par de multiples tentations, remarquez ce qu'il dit. Même si vous êtes en ce moment dans de multiples épreuves, et pour la chair qui peut produire une lourdeur et une tristesse, cependant à cause de ce que cela doit produire en vous, vous devriez vous réjouir d'une joie indicible et pleine de gloire, parce que cette épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que celle de l'or qui périt, bien qu'elle soit éprouvée par le feu, non, pourrait être, comme si cela pouvait arriver ou n'est mis pas arrivé, mais devait être trouvé à la louange, à l'honneur et à la gloire de l'apparition de Jésus-Christ. Et nous savons que la traduction VUEST nous a montré que les tests sont à des fins d'approbation, car il nous a promis qu'il n'ait mis nous imposerait rien que nous n'ait mis puissions supporter. La traduction VUEST. Au cours de quelle dernière saison vous vous réjouirez constamment d'une joie qui s'exprime dans une allégresse triomphante? Bien que, pour un peu de temps à l'heure actuelle, si par nécessité il y en a besoin, vous avez été rendu triste au milieu de nombreux types d'épreuves afin que l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par des tests dans le but d'être éprouvée, que votre approbation soit beaucoup plus précieuse que l'approbation de l'or qui périt, même si cet or est approuvé par des tests de feu, peut être découvert après examen minutieux pour aboutir à la louange, à l'honneur et à la gloire au moment de la révélation de Jésus-Christ. Remarquez qu'il y a trois choses que nos épreuves doivent produire en nous. Louange, honneur et gloire. Alors, qu'est-ce que cette louange? C'est Esther 1, mot qui signifie l'expression d'une approbation, d'une louange ou d'une admiration. 2. L'extolation ou l'exaltation de Dieu. Hébreux 13, 15. Par lui donc, continuons d'offrir le sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. Et Paul a dit que cette condition qui nous amène à louer Dieu et non les hommes, vient du cœur et non de l'homme extérieur. Romains 2, 29. Mais c'est-à-dire un juif, qui est-à-dire intérieurement, et la circoncision est-à-dire celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre, dont la louange n'est-à-dire pas des hommes, mais de Dieu. Roi Jacques, et dans Éphésiens 1, 12 et 14. Paul nous dit que la louange s'est-à-dire de la gloire de Dieu, qui est-à-dire sa doxa, qui est-à-dire son opinion, son évaluation et son jugement, en d'autres termes, la pensée même de Dieu, les pensées mêmes de Dieu. Que nous soyons à la louange de sa gloire, qui a d'abord fait confiance au Christ. Et encore au verset 14. La nouvelle naissance ou cette espérance vivante qui nous rend vivants, c'est-à-dire de nous amener à la louange de la gloire de Dieu, qui est-à-dire sa doxa, qui est-à-dire le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée, à la louange de sa gloire. Nous voyons donc que c'est-à-dire de cela qu'il s'agit pour la nouvelle naissance, pour nous amener au lieu de louer la gloire de Dieu, sa doxa. Pierre a aussi dit dans 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous montriez en avant les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et l'apôtre Paul nous a dit comment apporter cette louange dans Philippiens 4, 8. Enfin, frères, quoique les choses soient vraies, quoique les choses soient honnêtes, quoique les choses soient justes, quoique les choses soient pures, quoique les choses soient belles, quoique les choses soient de bon rapport, s'il y a de la vertu et s'il y a des louanges, pensez à ces choses. Donc, notre louange c'est-à-dire d'être le reflet de ces choses qui sont pures, saintes, honnêtes et vraies, etc. Nous voyons donc que l'épreuve de notre foi consiste à traiter avec notre cœur, afin que nous puissions voir ce que Dieu voit dans notre cœur, et ensuite nous pouvons juste volontairement nous écarter, afin que Dieu puisse nous façonner à son image même. Rappelez-vous, sous le ministère d'Élie de Malachie 4, cessèrent de changer nos cœurs. 1 Corinthiens 4, 5 Par conséquent, Néhémie jugeait rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui tout de mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et rendra manifeste les conseils des cœurs, et alors chaque homme recevra sa louange de la part de Dieu. Et dans quel autre âge avons-nous vu Hébreux 4:12? La parole comme discernement des pensées et des intentions du cœur? Avez-vous jamais pensé à la raison pour laquelle Dieu nous a manifesté cette parole? Pourquoi Dieu nous a-t-il manifesté le discernement de cœur? Pour qu'il puisse nous montrer à quel point nous pouvons être pourris et carrément laids dans nos cœurs, les uns envers les autres. Et il a permis cela pour que nous soyons plus que disposés à vouloir changer nos cœurs. 1 Pierre 1, 8 Lequel, vous aimez Néhémie l'ayant pas vu, en qui, quoique maintenant vous Néhémie le voyez pas, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, vous passez donc l'examen, parce que vous avez été ordonné pour le réussir. Dieu vous a mis à l'endroit où il vous veut, parce qu'il a ouvert votre propre âme à vous-même, et vous n'aimez pas ce que vous voyez, et pourtant Dieu dans sa miséricorde a placé une semence de vie divine en vous avant les fondations du monde, que lorsque vous voyez ce qu'il y a dedans, vous n'aimez pas, parce que vous savez que cela n'estère pas à la hauteur de ce que vous savez que vous avez été appelé à être. Et oh, s'estère la beauté de tout cela. Car en vous ouvrant à la correction de sa parole, vous allez neuf recevoir la fin de votre foi, le résultat ou le but de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. Maintenant, note alors que l'on nous dit que l'épreuve de notre foi doit être considérée comme plus précieuse pour nous que l'or qui a été éprouvé par le feu. Maintenant, nous connaissons toute l'histoire de la façon dont les artisans battaient l'or jusqu'à ce que tous les scories et les impuretés en soient éliminées, le laissant si parfait que l'artisan pouvait se refléter dans l'or. Eh bien, c'est-à-dire ce que Dieu veut voir en nous, mais les tests sont effectués pour vous, afin que vous puissiez voir les scories à l'intérieur, puis permettre à Dieu de les éliminer. En fait, vous voudrez qu'il fasse tout ce qu'il faut pour retirer tous les scories de l'intérieur. Maintenant, en étudiant ce sujet lors de l'épreuve de notre foi, nous avons également lu où Jacques a dit, « Jacques 1, de mes frères, considérez-le comme une joie totale, quand vous tombez dans diverses tentations. » Pourquoi ? 3 Sachant ceci, que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être perfectionné et accompli, sans faillir en rien. Vous voyez donc que lorsque l'épreuve vous fait gagner en patience, vous n'êtes pas trop pressé de faire quoi que ce soit, mais vous vous contentez de laisser Dieu suivre sa voie, et de vous aider à surmonter l'épreuve ou le besoin qui se présente à vous. Vous vous contentez de Christ, parce que vous savez que toute chose concourt pour votre bien, parce que vous aimez le Seigneur et que vous êtes ses élus. Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 par qui aussi nous avons accès par la foi à cette grâce de laquelle nous nous tenons, et nous réjouissons dans l'espérance, dans cette espérance vivante de recevoir la gloire ou doxa de Dieu. 3 Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les épreuves, sachant que les épreuves produisent en nous la patience. 4 Et la patience produit une expérience qui estère le caractère, et le caractère produit encore une véritable expectative. 5 Et une véritable expectative Néhémie nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu estère répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous est à donner. Ainsi, les épreuves sont ordonnées pour montrer à nos péchés la véritable condition de nos cœurs, comme Dieu nous le montre dans Jacques 3, 14. Mais si vous avez une envie et des conflits amers dans vos cœurs, Néhémie vous glorifiait pas et Néhémie montait pas contre la vérité. Maintenant, dans Deutéronome 8, nous entendons Dieu parler à Israël en disant, « Et tu te souviendras de tous les chemins par lesquels le Seigneur ton Dieu t'a conduit ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » La plupart des gens qui lisent cette écriture la lisent comme si le Seigneur mettait le peuple à l'épreuve, afin qu'il découvre ce qu'il y avait en eux. Ce n'est pas du tout ce que dit cette écriture. Ici, nous constatons que Dieu a mis la pression sur eux pendant 40 ans, pour éprouver leur cœur, pour mettre leur cœur à l'épreuve, non pour qu'ils sachent ce qu'il y avait dans leur cœur, parce qu'il connaît notre cœur. Mais Dieu a mis Israël à l'épreuve pendant 40 ans afin qu'ils puissent savoir ce qui était dans leur cœur. Regardez, comment Dieu peut-il vous changer si vous n'aimez, pensez pas avoir besoin de changer. Ainsi, Dieu vous permet d'ouvrir la bouche pour exposer quelle pourriture est profondément ancrée dans votre propre cœur, car c'est de l'abondance du cœur la bouche parle. Luc 6, 45. Un homme bon, du bon trésor de son cœur sort ce qui est bon, et un homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur sort ce qui est mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Vous voyez, le test nous permettra de savoir ce qu'il y a là-dedans, et aussi on nous donne des paroles pour nous mesurer, afin que notre mesure de foi soit la mesure que Dieu nous a ordonné d'avoir. Dans 1 Corinthiens 4:12, nous lisons, et nous peinons, travaillant de nos propres mains, étant injuriés, nous bénissons, étant persécutés, nous le supportons. Maintenant, c'est la mesure qui nous a été donnée, et quand nous examinons notre propre cœur en écoutant ce que nous disons, cela révèle là où nous avons le plus besoin d'aide. Soyez juste honnête et écoutez-vous un jour. Croyez-vous que vous pouvez le faire? Mais quand vous en entendiez d'autres faire de même, qu'en pensez-vous? Cela montrera si vous avez ou non un esprit hypocrite. Et si Dieu vous le montre, laissez cet esprit s'en aller. Vous, Néhémie, pouvez pas vous débarrasser de ce démon si vous, Néhémie, voulez pas vous en débarrasser. Dieu voulait qu'Israël connaisse son propre cœur, et donc pendant 40 ans, il a essayé de le lui montrer. Et vous savez quoi? Ils, Néhémie, l'ont jamais compris. Ils n'ont jamais lâché prise et laissé Dieu le faire. Alors Dieu a dit qu'ils n'entreraient pas dans son repos. Et ils sont morts dans ce désert, éternellement séparés de Dieu. C'est ce que William Branham a dit. Ils sont tous morts, séparés de Dieu pour l'éternité. Quelle est cette finalité? Alors la prochaine fois que vous serez corrigé par cette parole, acceptez la correction et dites, « Oh Dieu, pardonne-moi. Je n'ai émis su qu'un pécheur sauvé par grâce. » Et comme David l'a dit, psaume 139, 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, 24, et voici s'il y a en moi une voie méchante, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Proverbe 17, 3. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais le Seigneur éprouve les cœurs. Qui éprouve les cœurs? Dieu. Et pourquoi? Pour votre avantage. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, Deutéronome n'a pas dit que Dieu Néhémie savait pas ce qu'il y avait dans leur cœur, et il les a donc éprouvés afin de découvrir ce qu'il y avait dans leur cœur. Il voulait qu'ils sachent ce qu'il y avait dans leur cœur. Ainsi, Dieu leur Créateur même, a mis la pression sur eux, et il les a mis à l'épreuve, et ils ont rapidement découvert ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez? Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas votre action que Dieu regarde. C'est votre réaction qui vous bloque et vous dit ce qu'il y a en vous, que vous soyez chrétien ou non. Parce qu'il a dit, quand un homme vous frappe sur la joue, vous dites, voilà, tu as oublié ce côté, alors vas-y. C'est gratuit, c'est ma faute. Luc 16, 15 Et il leur dit, vous êtes ceux qui vous justifiez devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est à l'abomination aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, 20 Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont vaines. Un homme arrivé prend votre manteau, au lieu de se préparer à se battre, vous devriez dire, eh bien, ça va, et pendant que vous y êtes, celui-ci vous ira aussi bien. Si votre cœur restait en harmonie avec Dieu, alors vous l'apprécierez, sachant que toutes choses vont concourir pour votre propre bien, car Dieu participe activement à la surveillance de ses enfants. Dans 2 Thessaloniciens, 3 nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 5 C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Dieu dit que c'est un signe manifeste de son approbation à votre égard. Si vous êtes son fils, il essaie de vous rendre fort. Il essaie de vous donner du caractère. C'est votre réaction qui raconte la vraie histoire. 1 Jean 3, 9 Quiconque est né de Dieu n'est mis, commet pas de péché. Cela signifie qu'il n'est mis, commence pas le péché. Ou un acte d'incrédulité, car sa semence de Dieu demeure en lui, et lui, celui qui est né de Dieu, n'est mis peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Par conséquent, aucun vrai saint de Dieu n'est mis, commencera jamais rien. Montrez-moi dans la parole de Dieu où un saint de Dieu a commencé quelque chose. Vous dites, David l'a fait. Non, il n'est mis l'a pas fait. Cette femme s'est déshabillée devant le public. Il n'est mis le pensa vraiment pas. Je n'ai mis crois pas qu'il l'ait fait. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Les chrétiens n'aimés commencent pas les choses, mais, quand quelqu'un d'autre les commence, il les termine souvent. Vous voyez? David n'est pas parti à la recherche du péché, mais il est tombé dans le péché. Et il y a une grande différence entre commencer la chose et tomber à cause de cette même chose. Quand David a été insulté, il n'a jamais insulté en retour. Quand Jésus a été maudit et crucifié, il a dit, « Père, pardonne-leur. » Il n'a pas crié à Dieu pour se venger de ceux qui l'ont maltraité. Et l'épouse Néhémie cherche pas non plus à se venger. Elle implore le pardon. Elle comprend et dit, « Je serais au même endroit, si ce n'était pas de la grâce de Dieu. » Donc, Dieu vous met la pression pour que vous puissiez voir votre propre réaction, car la façon dont vous réagissez à toute stimulation prouvera ce que vous êtes à l'intérieur. Et aujourd'hui, la pression va venir de Dieu comme jamais auparavant. Il le faut, car nous sommes horriblement verts. Nous n'aimons sommes pas matures. Nous n'aimons nous sommes pas mis en présence de Dieu pour mûrir comme nous le devrions. Nous devons être conscients de la présence de Dieu avec nous à tout moment. Et sachant qu'il est le juge, cela devrait vous faire marcher très humblement et avec respect. Hébreux 10, 35. Naomi, rejetez donc pas au loin votre confiance qui a une grande récompense. 36. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir les promesses. Regardez, Abraham n'a reçu sa promesse qu'après avoir été éprouvé et trouvé patient. Alors Dieu lui a donné son fils promis. Dieu a dit, tu as besoin de caractère, ce qui n'est mis peut venir que de la patience. Tu as besoin de caractère. Tu penses que tu as besoin de la guérison. Non. Tu penses avoir besoin d'une nouvelle voiture. Non. Besoin d'une nouvelle maison. Non. Non. Tu n'as pas besoin de ces choses. Oh. Oui. Mais pas comme si vous avez besoin du caractère. Pas comme si vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience. Vous voyez? Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir les promesses. Maintenant, écoutez attentivement, car s'astère un principe de foi, et s'astère tout ce qui se résume ici. Du moment où vous avez fait la prière de la foi jusqu'au moment où la réponse vient, il y a un chemin sur lequel chaque chrétien doit marcher, et s'astère le chemin du développement du caractère chrétien, et s'astère sur ce chemin que vous recevrez votre réponse, sinon la perdre pour toujours. Paul a dit dans Romains 8:17, et si des enfants, alors héritiers. Héritiers de Dieu et Colossiens héritiers avec Christ. S'il en estère ainsi, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. Vous n'y participerez pas à la gloire de Dieu, ni n'aurez sa pensée même, sans souffrir d'abord pour obtenir ce caractère en vous qui était en lui. Pourquoi? Parce que la puissance en caractère est satanique, mais la puissance avec caractère vient de Dieu. Vous et moi n'y sommes pas dignes de recevoir la confiance avec la puissance, à moins que nous n'ayons du caractère. Pourquoi les gouvernements du monde d'aujourd'hui sont en ruine? Il n'y a pas de caractère. Et sans caractère pour gouverner, alors la règle se dérègle. Il n'y a pas d'homme d'honneur parmi les dirigeants du monde aujourd'hui. Qu'est-ce ce qui n'est mis va pas dans le monde? Il suffit de lire l'histoire du monde et celle de l'Église catholique pour voir ce qu'étaient les papes. Un des papes, je crois que c'était Jules II, a eu 22 enfants illégitimes. Et c'était les chefs spirituels de l'Église, que Dieu sauve l'Église de ses dirigeants, à elle. Le pouvoir sans caractère est satanique. La puissance avec caractère sans les apte à régner, et Dieu veut que nous régnions avec lui. Si nous voulons le faire, nous devons avoir du caractère. C'est ça raisonnable. C'est ce qu'il nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, écoutez. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe, selon la parole de Dieu. Passons à Psaume 106, 7-15. Nos pères n'ont pas compris tes merveilles en Égypte. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que Dieu faisait là-bas. Et les gens n'y changent pas. Ils sont les mêmes aujourd'hui. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que Dieu faisait avec son prophète élu, William Branham. Et ils n'ont toujours pas la moindre idée de ce que Dieu fait ici, sous la forme de la colonne de feu, qui nous conduit jusqu'au millénium. Dieu prend son homme, mais jamais son esprit. Son esprit est toujours ici pour nous guider. Israël n'a pas compris les miracles de l'Égypte. Ils n'y se sont pas souvenus de la multitude de tes miséricordes, mais ils l'ont provoqué à la mer, c'est-à-dire à dire à la mer rouge. Et qui ont-ils provoqué? C'est-à-dire Moïse qu'ils ont provoqué, mais Dieu a dit que c'était lui qu'ils avaient provoqué. Vous voyez? Ils ont dit à Samuel qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Mais Dieu a dit que ce n'était pas Samuel qu'ils avaient rejeté, mais c'était Dieu lui-même. Et donc Israël Néhémie pouvait pas supporter les épreuves. Quand les temps ont été durs, ils ont vraiment tourné le dos à Dieu. Lui, toutefois, il les sauva pour l'amour de son nom, afin qu'ils puissent faire connaître son grand pouvoir. 9. Il menaça aussi la mer Rouge, et elle s'assécha. Ainsi il les conduisit à travers les profondeurs, comme à travers le désert. 10. Et il les sauva de la main de ceux qui les haïssaient, et les racheta de la main de l'ennemi. 11. Et les eaux couvrirent leurs ennemis, il n'en restait pas un seul. 12. Alors ils crurent ses paroles. Ils chantèrent sa louange. Remarquez qu'ils ont eu leur petit réveil. Mais, 13. Ils oublièrent vite ses œuvres. Ils n'attendirent pas pour son conseil. Voyez-vous? Il Néhémie se souciait pas de sa parole. Donnez-leur simplement des pains et du poisson. 15. Et il leur a donné leur demande, mais a envoyé la maigreur dans leurs âmes. Or, ce mot maigreur signifie non productif ou prospère, maigre, en d'autres termes, comme l'église de l'Odyssée, ni froid ni chaud, mais tout simplement tiède. Il n'y a jamais eu un groupe de personnes aussi maigre aujourd'hui qu'à cette heure avancée. Mais parler de lignes de prière, ils en ont. Parler des raccourcis, ils les ont. Mais ils n'ont pas cette parole. Ils ont dit, quand il est Esther en train de discerner, ça n'émira jamais, mais faites attention à ces doctrines. Israël n'a pas obtenu de résultats ici, hein? Bien sûr qu'ils ont eu des résultats. Pour son grand nom, il a fait les œuvres puissantes sur son nom. Mais il a dit, il a envoyé la maigreur dans leurs âmes. Remarquez que c'est Esther leur âme, qui Esther est devenue maigre. Ils n'avaient aucun caractère. Vous voulez que Dieu agisse? Mais vous n'aimez, voulez pas aller dans le sens que Dieu vous dicte. Vous voulez qu'on prie pour vous sans vous mettre à genoux devant Dieu? Allez-y. Une chose pire vous arrivera. Je dois dire que c'est Esther vrai, parce que Dieu l'a dit. Vous dites, oh, Dieu, je voudrais ceci. Dieu dit, je veux ton caractère, je veux ta patience. Vous en avez besoin. Dieu veut que vous ayez les deux. Psaume 103, 7. Il fit connaître ses voies à Moïse, ses actions aux enfants d'Israël. Israël n'a jamais tiré les leçons de ces miracles. Il faut apprendre de cette parole. Moïse a appris la voix de Dieu, la souffrance, la patience, puis la puissance. Ils ont dit, la puissance, bénissez Dieu, et Esther tout. Si Esther le diable, ce n'Esther pas Dieu. Vous dites, ces gens Néhémie font-ils pas de grands miracle? N'est-ce pas la puissance de Dieu? Certainement. Balaam avait le pouvoir de Dieu, tout comme Judas avait le pouvoir de Dieu. Mais Jésus dit, je n'ai vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité? Vous savez faire le bien et vous n'ai le faites pas. Ces hommes étaient donc des ouvriers d'iniquité, mais avec la puissance de Dieu. Où est-ce le caractère aujourd'hui? Les gros bonnets supplient tous pour avoir votre argent, et disent qu'une Néhémie peuvent pas faire le travail de Dieu sans ça. Je suis la preuve vivante que l'on peut aller dans le monde entier, 164 pays, que je connais à ce jour, avec un budget très limité. Oui. Notre site web a coûté, $154 pendant 2 années complètes. Et nous avons donné 82 ordinateurs portables que nous avons reçus gratuitement de Dieu. Et nous avons acheté plus de 30 nouveaux ordinateurs pour très peu d'argent. Et nous avons donné plus de 160 kits complets de sermons de frère Branham pour un peu plus de $1000. Nous avons aussi donné à l'épouse de Christ un moteur de recherche à des milliers de croyants dans le monde entier, ce qui nous a coûté quelques centimes par dollar. Dieu nous a donné des logiciels d'une valeur de $3600 par l'intermédiaire de l'université de $15. Alors Néhémie, me dites pas que vous avez besoin de vos millions pour faire moins que ce que nous avons fait pour des centimes. Néhémie, me dites pas que ce n'est pas possible. Parce que nous l'avons fait. Dieu veut votre patience, qu'il vous donne du caractère, qui vous rend apte à régner sur le trône. Il a fait connaître ses voies à Moïse, l'homme le plus doux jamais connu, mais tout ce qu'Israël a obtenu, c'est Esther de voir ses actes, et ils n'ont pu ni se cacher ni se faire suivre de ce qui se passait. Maintenant, que voulez-vous? Vous voulez la guérison? Vous voulez une miche de pain? Vous voulez une meilleure maison? Vous voulez une meilleure voiture? Que voulez-vous? Ou alors, voulez-vous ce que Dieu veut que vous ayez? Maintenant, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir les deux. Marc 10:29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 Néhémie reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous savez que j'ai été pasteur de cette église pendant 25 ans sans toucher de salaire. Ce n'est pas votre faute. C'était ma propre décision. Mais je l'ai fait et Paul était mon modèle et il a travaillé pour Néhémie pas avoir de compte à rendre à personne. Et il a voyagé dans beaucoup plus d'endroits que tout autre apôtre à son époque. Frère Branham avait deux emplois pour la même raison, jusqu'à ce que ses voyages l'emmènent dans le monde entier, et loin de chez lui, à tel point qu'il lui était impossible de garder un emploi, et c'est aussi ce que j'ai fait. Vous voyez, vous pouvez l'avoir. Dieu a dit que vous pouvez l'avoir, mais vous l'obtenez à la manière de Dieu. Si vous l'obtenez d'une autre manière, vous aurez l'âme maigre. Quelque chose va vous arriver. Vous voulez une âme grasse ou une âme maigre? Voulez-vous vraiment de Dieu? Si c'est le cas, il vaut mieux être prêt à souffrir. Vous dites, je veux être guéri. Êtes-vous patient? Je me souviens d'une femme qui prétendait croire que je l'avais rencontrée il y a des années, et qu'elle avait tout le temps des migraines. Elle est allée voir son médecin et il lui a dit de se couper les cheveux. C'était trop long et cela lui causait des maux de tête. Alors elle a coupé ses cheveux. Maintenant, je suis désolé, mais si j'avais les cheveux assez longs en tant que femme pour me causer des maux de tête, je dirais, Jésus, tu m'as dit de n'aimer pas les couper, parce que si je les coupe, tu n'entendras même pas mes prières. Je vais donc supporter ces maux de tête avec la joie dans mon cœur que je connais. Je souffre pour l'amour de cette parole. Et si je souffre avec toi, alors je serai apte à régner avec toi. Non. Cette femme qui a coupé ses cheveux a montré qu'elle n'avait aucune idée de sa guérison. Si elle avait dit, ô Dieu, je vais en payer le prix et si cela te plaît, donne-moi encore plus de maux de tête, parce que tout ce que je veux, c'est te plaire. Avec cette attitude, le diable devrait prendre son envol. Alors, taisez-vous devant Dieu. Et si vous demandez juste à avoir le caractère droit, ça Néhémie marchera pas. Néhémie demandez pas non plus la patience directement, car Dieu Néhémie peut pas vous donner la patience. C'est l'affliction qui apporte la patience. C'est la persécution qui fait travailler votre patience. L'expose des 7 points âge souligné, chapitre 4, page 1. 117-1. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 1.17-18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps prisonnier mis sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous n'aimons ni souffrons pas avec lui, nous n'aimons ni pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on aimant peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère n'aimant peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et, puisqu'il veut que nous partagions même son trône, tout comme lui est vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant n'émis sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. C'est Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2020. Traduit de l'anglais en français par Frère Serge Ngoy, sergentngoy@yahoo.fr, Moanda, Gabon.